Le 16 novembre, les élèves d'AP Juste Humain et leurs camarades de thèse 2 ont assisté à une conférence donnée par M. Philippe Lecomte, professeur en prépa HEC au lycée Joseph Saliège de Toulouse. Le thème abordé était celui de savoir si la France était en guerre.
Bien, une fois qu'il y a les présentations, a priori tout le monde est là. Je donnerai les bulletins de la France tout à l'heure. Bien, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir M. Lecomte, qui est donc professeur, qui fait surtout partie de ce qu'on appelle la réserve citoyenne. La réserve citoyenne, c'est un dispositif mis en place par l'Éducation nationale pour diffuser, pour partager les valeurs de la République. Et donc on fait appel à des gens d'horizons très différents pour venir partager dans les établissements ces valeurs de la République. Et ce sur quoi insiste beaucoup la réserve citoyenne, c'est que nous, enseignants, on peut s'appuyer sur ces personnes ressources pour diffuser ces valeurs. Il se trouve que M. Lecomte est enseignant et a longtemps enseigné en lycée et enseigne aujourd'hui encore en classe préparatoire aux grandes écoles, en particulier en prépa HEC. Et à la fin de son intervention, il y aura une partie d'échanges, une partie de questions-réponses, et ça peut être une occasion pour un certain nombre d'entre vous. Je pense à vous, les terminales, qui, à l'issue de votre année, vous avez entamé la procédure post-bac. Vous pouvez poser des questions sur cette formation. Ça peut être intéressant d'avoir quelques repères pour ça. Maintenant, je vais faire les présentations pour monsieur Lecomte. Il y a en fait dans cette salle deux groupes. Cette classe ici présente, c'est la classe de Lucas de Terminal. Monsieur Mendès, mon collègue de philosophie, Madame Perrier-Mont ont eu la gentillesse de nous confier cette classe pendant 2 heures. Et ici, vous avez pour l'essentiel des élèves de seconde qui participent au projet Juste Humain. Voilà. Donc, Monsieur Lecomte vient nous parler de la France dans un contexte géopolitique compliqué. Et le thème de son intervention, c'est la France. Et à
l'anglais. Pas de problème, pas de problème.
Pendant une heure et demie, M. Lecomte va intervenir et ensuite il va y avoir une demi-heure d'échange et donc vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le contexte géopolitique et également sur le thème éventuellement de l'orientation. Sachez donc que cette émission est enregistrée. Pour les besoins de Radio Jeune Actu, on a des représentants ici, et également que certains extraits seront retenus pour les besoins de la présentation de l'accompagnement personnalisé Juste Humain. Bien. Bonne écoute.
Bien. Alors je voudrais d'abord m'assurer que vous avez tous et toutes, plutôt toutes et tous, ces deux feuilles, ces deux documents qui sont passés. C'est d'une part le plan de la présentation et d'autre part une liste des auteurs intéressants, je dirais, à découvrir. Ça ne veut pas dire que je vais tous les utiliser au cours de cette présentation, mais ça veut dire que si vous avez la curiosité d'aller plus loin, et si c'est le cas à la fin de cette présentation, évidemment, ce sera gagné. Si vous avez la curiosité d'aller plus loin, eh bien là, vous aurez quelques pistes pour en savoir un petit peu plus sur cette question. Avant de commencer, je vais vous dire en quelques mots dans quelles circonstances j'ai été amené à faire ce travail. Ça a d'abord été une commande de l'établissement dans lequel j'ai enseigné et dans lequel je continue de travailler, juste après l'effet traumatique du 13 novembre 2015. À titre de rappel, nous allons malheureusement célébrer dans quelques jours les 2 années qui suivent cet événement. Alors je dis effet traumatique parce qu'évidemment, peut-être étiez-vous encore un petit peu jeune il y a 2 ans, mais vous en avez très sûrement un souvenir. En tout cas, les étudiants dont j'avais la charge était incontestablement dans cette réflexion, dans cette interrogation, On n'ira pas jusqu'à parler de traumatisme psychologique personnel, individuel, mais quand même, un vrai questionnement, qu'est-ce qui nous arrive? Et ça, un an après, un autre traumatisme de grande ampleur, c'est de l'inédit, du jamais vu, c'est-à-dire l'ensemble des journalistes d'un journal qui s'appelle Charlie, qui ont été assassinés en quelques minutes, avec des personnages d'ailleurs emblématiques, connus d'une bonne partie des Français. Donc, nous en sommes là maintenant avec, encore une fois, cette interrogation sur le « qu'est-ce qui nous arrive ?». Et la réponse la plus commode, effectivement, ce serait de dire « eh ben voilà, nous sommes en guerre ». Bon. Alors évidemment, ça m'a interrogé, cette affaire-là. Je suis un petit peu plus âgé que vous. Et j'ai donc eu des parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui m'en ont beaucoup parlé, évidemment. Et finalement, quand je rapporte à ces souvenirs de mes propres parents les circonstances actuelles, ça n'a strictement rien à voir. Donc, déjà, ça justifie de s'interroger sur le terme lui-même. Est-ce qu'il convient? Est-ce qu'on est, d'une certaine manière, embarqué dans une forme de dramatisation excessive? Est-ce qu'il s'agit d'une autre guerre, d'une autre nature? Bref, on va essayer de faire avec tout ça, mais une fois qu'on appuie sur ce bouton, hein, vous savez, c'est le coup de clic, et dès que vous avez cliqué, vous avez un défilement, une arborescence qui va dans tous les sens. Parce qu'effectivement, quand on commence à réfléchir sur cette question-là, on est obligé d'en passer par l'intérieur et l'extérieur. Éventuellement, d'ailleurs, notre intériorité à nous, hein, pourquoi pas. Mais surtout, l'intérieur, j'évoque la société française, qui a été passablement chamboulée, et qui l'est encore. Mais aussi la dimension beaucoup plus géopolitique et internationale de la question. Et il se trouve que notre pays n'est pas à la marge de cette dimension internationale. Non seulement il n'est pas à la marge, mais il est au cœur. Il est complètement plongé au cœur de cette dimension internationale. Et ça aussi, il va falloir qu'on prenne en compte. Et puis enfin, dernier propos préalable, on est toujours, par rapport à ces événements, saisi d'une interrogation, mais qu'est-ce que je peux faire? Après tout, hein, moi je suis un simple citoyen, dans mon quartier, dans mon coin, dans ma campagne, je ne peux pas faire grand-chose. Et je pense que c'est une erreur d'appréciation. Nous pouvons faire, alors, nous pouvons faire, évidemment, il ne s'agit pas ici d'envisager une carrière type météore à la Macron, mais nous pouvons faire dans un périmètre qui est le nôtre. Et on va essayer également un peu de s'interroger là-dessus. Voilà ce qui vous attend. J'espère que ça sera suffisamment digeste, parce que vous allez quand même me subir pendant une heure et demie. Mais pour nous aider, y a les images. Alors, les images, évidemment, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Et ne pas en faire trop, donc j'ai essayé quand même d'être suffisamment sélectif. La première image, c'est le rappel traumatisme. Vous avez reconnu Marianne de profil. Et cette Marianne, elle verse évidemment une larme. C'est l'alarme de toute une société, de toute une collectivité, qui est entre sidération, incompréhension et en même temps une affliction, une peine profonde. Au-delà de l'émotion, il s'agit, il s'agit donc de revenir sur ce choc du 13 novembre. Donc j'appuie sur le bouton return, on repart en arrière sur quelques mois, et nous avons quoi? Nous avons des faits qui, effectivement, sont particulièrement saisissants, plusieurs centaines de morts, plusieurs dizaines de morts, plusieurs centaines de blessés, dans des situations inédites, totalement inédites, on en reparlera un petit peu. Il s'agit bel et bien de fusillades dans les rues de Paris, et pas n'importe quel quartier, un quartier qui est emblématique de beaucoup de choses, de la jeunesse, de la culture, de la vie nocturne. Et puis, je dirais, en plus, autre couche absolument insupportable, on tire dans une salle de spectacle, Bataclan, on tire sur tout ce qui bouge. C'est une véritable boucherie. Et tous les Français, ou quasiment tous les Français, je dirais, sont complètement fascinés par l'horreur de ce qui se passe. Et il est clair, et il faudra qu'on en reparle aussi, que le débit incessant des images sur n'importe quelle, je dirais, chaîne d'actualité continue, crée un effet tout à la fois hypnotique et un effet d'horreur collectif. Alors, et pourtant, quand on est un petit peu dans cette saisie de cette façon-là, la bonne réaction, c'est de prendre de la distance, quand on peut, et notamment de la distance historique. C'est pour ça que j'ai repris quelques images. J'aime beaucoup le cinéma, donc il m'est venu en tête un certain nombre de rappels. Alors, par exemple, cette affiche, My Son Fanatic, c'est un film britannique, et ce film britannique date de 1997. Alors faites le calcul, il y a 30 ans. Ça raconte l'histoire d'un père qui est amené progressivement à apprendre que son fils est engagé dans ce qu'on pourrait appeler une dérive radicalisée, fortement radicalisée, et est donc prêt à un passage à l'acte de type attentat. Plus proche de nous, et ça va intéresser notamment ceux qui sont concernés par le projet de voyage, là, Paradise Now, c'est un film qui retrace l'histoire de deux jeunes Palestiniens qui se portent volontaires pour commettre des attentats dans des territoires israéliens. Évidemment, dit comme ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, mais il n'en demeure pas moins que ce film témoigne également d'une espèce de tentation de radicalisation jusqu'à l'extrême, hein, puisque là, il s'agit tout simplement de donner sa vie à une cause. Quand je dis donner sa vie à une cause, j'ai l'impression ici d'être dans ce qu'on appelle la sociologie de l'excuse, mais évidemment non. C'est ce qui est intéressant, c'est de savoir comment et pourquoi on peut être poussé à une telle radicalité. Et puis, de se dire, eh bien, il n'y a pas non plus, je dirais, un syndrome franco-français qui bouillonne et qui se développe seulement dans notre territoire. Cette problématique est évidemment omniprésente ailleurs. Et puis enfin, et là on revient à la France, un excellent travail de Philippe Faucon, c'est un metteur en scène talentueux qui travaille sur les questions d'équilibre social, de rupture d'équilibre social. Et donc en 2010, si je ne fais pas d'erreur, peut-être même à... Non, c'est bien 2010. 2010, c'est-à-dire 4 ans avant Charlie, et donc 6 ans avant le 13 novembre, il produit un film qui montre de façon totalement réaliste et sidérante le parcours de candidats à une forme de djihad et de sacrifice ultime de leur vie. Alors, vous avez bien vu, hein, Rachid Debbouze, c'est bien le frère du Debbouze que vous connaissez et que nous connaissons tous. Toujours prise de distance, toujours prise de recul, la chronologie de 25 années d'attentats en France. Nous sommes dans mon point de départ ici, qui n'est pas un point de départ historiquement significatif. Hein. On peut remonter encore plus en arrière. Hein. En 1994, prise d'otage, vol Air France par le GIA. Alors, le GIA ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est un groupe algérien qui entend bien, je dirais, mener un combat pour relayer d'une certaine manière les aspirations des forces politiques islamiques en Algérie. Ça se traduit par 3 morts, quand même. Mais l'important, c'est de savoir que c'est le GIA qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Bon, dans le RERB en 96, hein, je ne vais pas tout reprendre, tous les événements, mais là encore, le soupçon se porte sur le GIA. En 2012, stupéfaction, un certain Mohamed Merah, qui saisit à Toulouse et à Montauban, est à l'origine de cette mort, et de façon particulièrement, je dirais, dure, puisque vous n'êtes pas sans savoir que des enfants vont faire partie de ces morts, et qu'ils ont été tués, non pas par une explosion, mais qu'ils ont été tués par un coup de feu délibérément tiré par Merah. Et là se pose la question qui met totalement en désarroi les politiques à l'époque. D'où vient-il? Pourquoi a-t-il agi? Et c'est là qu'apparaît un profil dit du loup solitaire, c'est-à-dire du jeune qui laisse monter par le biais d'informations diverses et variées, par le biais d'influences diverses et variées, qui laisse monter une forme de haine qu'il va finalement faire sortir de façon spectaculaire. Bon, c'est une interprétation psychologique qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais néanmoins, on a beaucoup de difficultés à ce moment-là à trouver l'origine de l'organisation, si vous préférez, qui est derrière ce personnage. Par contre, nous avons, avec une erreur de date que vous rectifierez sans problème, hein, en 2014 et non pas en 2015, l'attaque de Charlie Hebdo, et là c'est signé, petite surprise, Al-Qaïda. C'est pas le LI, c'est pas l'État islamique, c'est Al-Qaïda. Par contre, évidemment, le drame du 13 novembre, là aussi je vais à l'essentiel, c'est-à-dire le 13 novembre donc 2015, il y a près de deux ans, est signé Daesh, c'est-à-dire l'État islamique. Je peux évidemment continuer jusqu'à nos jours cette longue série d'attentats et notamment le carnage de Nice en 2016. 86 personnes sont écrasées par un camion. Là encore, c'est la signature derrière de l'État islamique, c'est la signature de Daesh. Donc il y a deux choses qui, à partir de cette liste, nous viennent en tête. La première, trois choses. La première, c'est que les attentats, ça fait belle lurette que ça existe. Bon, pas une très bonne nouvelle, mais c'est comme ça. La deuxième, c'est que ce qui motive ces attentats, d'une part, les organisations qui ont préparé ces attentats, d'autre part, sont diverses. Je vous rappelle qu'on est parti du mot de guerre. Et que quand on est en guerre, il faut se poser la question, qui est l'ennemi? Alors là, ça commence à devenir un peu compliqué, hein, de savoir, finalement, qui est l'ennemi. Et le troisième point qui frappe, c'est également la différence de mode opératoire. Si je le fais rapidement, je dirais que Charlie s'est ciblé. C'est typique de la stratégie Al-Qaïda. Al-Qaïda cible. Les Twin Towers en 2001 à New York, c'est ciblé. L'aspect symbolique est évident. On cible. Daesh, on tire dans le tas. La procédure n'est pas la même. L'effet attendu n'est pas le même. Quand il y a des cibles et qu'on les connaît, d'une certaine manière, c'est rassurant. Quand il n'y en a plus, on se dit ça peut être partout, indistinctement. Des jeunes, des pas jeunes, indépendamment de leur catégorie sociale. Évidemment, cette façon, je dirais, indistincte de tuer plonge toute la société. Personne ne veut plus se planquer. Toute la société dans une véritable interrogation, et quelque chose de l'ordre de à qui tour. De ce point de vue-là, l'attentat de Nice est extrêmement éloquent. On écrase tout le monde. Alors qu'il y ait des musulmans dans la foule ou pas, peu importe, on écrase tout le monde. Et ce qui est important, c'est évidemment, non seulement, enfin, au-delà de la signature de Daesh, le jour où ça se produit, c'est-à-dire un 14 juillet. Et puis enfin, troisième point, c'est ce que vous avez tout à fait en bas là, de la diapo, la majorité des attentats islamistes qui ont atteint l'Europe depuis la décennie 90 ont été perpétrés en France. Bon, alors évidemment, il serait tentant de dire, décidément, ils ne nous aiment pas, mais quand on dit « ils ne nous aiment pas », on rentre dans une approche binaire de la situation, ce qui n'est jamais très bon, parce que finalement, il y a évidemment des réponses. Alors je vous ai mis là, vraiment en vrac, hein, comme ça, pour que ce soit plus simple, je vous ai mis en caractère, j'allais dire normal, tout ce qui peut faire l'objet d'une forme de détestation de la part d'une radicalité, j'hésite presque à dire islamique, parce qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ça, je vais vous dire pourquoi un petit peu plus tard. Mais et puis, je dirais, en lettres différentes, un petit peu en dessous, donc, tout ce qui est spécifique à la France. Alors, c'est vrai que là, on a le pack complet de ce qui peut être potentiellement détesté par ceux qui commettent des attentats. Bon. Alors, les généralités. Oui, la France est une démocratie. C'est pas la seule. Oui, la France a légiféré dans le sens du mariage pour tous. Le problème, c'est qu'il y a une bonne vingtaine de pays en Occident qui ont fait la même chose. C'est un pays qui a essayé, il y a encore du boulot, hein, mesdemoiselles, je vous alerte quand même là-dessus, il y a encore du boulot, hein, mais un pays qui s'évertue à faire en sorte que l'émancipation féminine ne soit pas un simple slogan. C'est un pays qui a des alliances, des alliés, qui fait partie de l'OTAN, même si pendant une période de son histoire, elle s'en est écartée, mais bon, c'est un pays qui aujourd'hui fait partie de l'OTAN, et qui donc affiche une certaine proximité avec les États-Unis. Je vous rappelle que pendant la crise iranienne, les États-Unis, on l'appelait le grand Satan. Et que parfois, par déduction, on appelait la France le petit Satan. Bon. Et puis un mode de vie. Ah, le mode de vie à la française, très hédoniste. Hédoniste, ça va ? Porté sur le plaisir, hein, sur les sorties, sur... bon, je veux dire... La France sans apéro n'est plus la France. Donc, je pourrais rajouter comme ça un certain nombre de clichés. Il n'en demeure pas moins que, bon, il y a quelque chose qui est ici assez tangible et en même temps qui n'appartient pas qu'à la France. Ce qui appartient vraiment à la France, c'est les cinq propositions qui suivent. C'est la laïcité. Ça ne veut pas dire que la France soit le seul pays laïque. Mais ça veut dire que c'est la France qui a, d'une certaine manière, inventé le concept de laïcité, dont on essaiera de reparler. La proportion de la population de culture musulmane. Alors, je prends mes précautions, je dis de culture musulmane. Je n'ai pas dit de musulman. Parce qu'après tout, quelqu'un qui est de culture musulmane, il a le droit de ne pas être musulman. Il a le droit de ne pas être dans la pratique de la religion musulmane. Ça existe. Donc, de proportion de la population de culture musulmane, record absolu parmi tous les pays occidentaux. D'accord ? On peut dire, pour certains, et certains partis politiques n'hésitent pas à le dire, c'est une catastrophe. On peut dire aussi, c'est une chance absolument providentielle. Ça veut dire que c'est la France qui est au front de la question du vivre ensemble. Comment on fait ? Oui, on n'a pas les mêmes cultures. Oui, on a des différences. Comment on fait ? Eh bien, la première réponse à comment on fait, elle vient du début du XIXe siècle, ça s'appelle la laïcité. Donc, il y a là quelque chose qui pourrait faire de la France un espèce de modèle, un espèce de laboratoire d'expérimentation du vivre ensemble, là où, partout dans le monde, vous avez une contraction, un effet identitaire très fort. Si vous n'en êtes pas convaincu, regardez les résultats autrichiens d'hier. Au moment où tout le monde se replie sur ses racines, qui sont souvent d'ailleurs mal connues, mal interprétées, mais peu importe, il y a là, ici, dans le cadre de la France, une expérimentation d'une certaine manière, un laboratoire, un énorme laboratoire vivant, de le vivre ensemble, on peut y arriver. Mais vous imaginez bien que quand on est dans la radicalité, c'est insupportable. Parce que justement, les attentats sont faits, il ne faut jamais l'oublier, pour pour faire exploser cette idée. Les attentats sont faits pour dresser une population contre une autre. S'il y a bien quelque chose que l'on peut tirer, quelles que soient les organisations qui sont derrière, qu'on peut tirer de ces attentats, c'est bien ça. C'est bien ce message-là. Nous allons faire exploser la société française en divisant les Français les uns contre les autres. Les interventions militaires, ben là aussi c'est de l'inédit. La France est sur de nombreux terrains militaires. C'est comme ça. Elle est en Irak, elle est en Syrie, elle est au Mali, elle est au Tchad. Un peu partout où ça bouge de façon particulièrement significative et parfois dangereuse. Donc, une France qui fait avec les moyens qu'elle a, évidemment, ce n'est pas les États-Unis, mais qui néanmoins est partout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de posture néocolonialiste ? Ce n'est pas si facile. Par contre, dire qu'il y a un héritage historique, ça oui, très certainement. Et puis enfin, des liens historiques très forts avec les pays du Maghreb. Avec les pays du Maghreb, depuis des décennies, c'est « je t'aime, moi non plus ». C'est une forme, je dirais, de fascination mutuelle. Et quand on s'aime, quand on a une relation passionnelle au nom de l'histoire, hein, entre des peuples, c'est la même chose entre les individus. Vous savez, la délimitation entre l'amour et la haine, elle devient compliquée, quoi. Elle bascule très vite de l'un à l'autre. Et puis, là, c'est pas, je dirais, une étape cocorito. C'est tout simplement, je dirais, pour vous rappeler l'onde de choc qui a suivi et Charlie et le 13 novembre. Bon, là, vous avez peut-être reconnu, hein, nous sommes à Londres. Et là, tous ces bâtiments et la grande roue peinte en bleu-blanc-rouge. C'est le cas aussi à Sydney. J'aurais pu en rajouter des tonnes. Et puis c'est le cas dans cet endroit que vous avez peut-être reconnu. C'est pas l'Arc de Triomphe, évidemment. Oui. C'est la porte de Brandenburg à Berlin. Signification énorme, énorme. Vous savez, à l'échelle de l'histoire, hein, 50, 60, 70 ans, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que il n'y a pas si longtemps, on était en guerre, une guerre terrible avec ce pays. Et là, il y a, d'une certaine manière, la célébration à travers ces réactions à l'échelle du monde, la célébration d'un système de valeurs incarné par la France. Alors, je ne suis pas dans l'excès, là. Hein, je ne suis pas dans une espèce de nombrilisme franchouillard. Je dis tout simplement que la France, bah oui, elle a produit en pleine révolution un texte qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme, dont on a dérivé la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Universelle, ça veut dire que vous avez quasiment plus de la moitié de la planète qui, progressivement, vont signer, vont dire « oui, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord ». Donc, bien sûr qu'il y a une portée universelle à ces événements qui touchent la France. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de ce qu'on appelle le djihad et donc les djihadistes. Et je parle avec beaucoup de précaution ici parce que les personnes dont je vais vous parler à l'instant restent quand même très, très mystérieuses. Alors, avant de parler de ceux qui ont commis des actes en France, puisqu'il faut, dans une situation de guerre, désigner l'ennemi, eh bien, allons-y, l'ennemi, ce serait donc Daesh. Bon. Alors, on sait que c'est embêtant, parce que vous n'êtes pas sans savoir, enfin, cette idée, hein, je l'arrondis un petit peu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu hier quelque chose d'absolument abominable qui s'est passé à Mogadiscio, en Somalie, avec la bagatelle de 280 morts, on est à peu près là maintenant. Le groupe qui a sévi à Mogadiscio ne se, en tout cas officiellement, ne déclare pas une filiation directe avec Daesh, mais plutôt Al-Qaïda. Ça veut dire que les deux composantes continuent, je dirais, d'une manière ou d'une autre, à agir, mais aussi, ce sont deux organismes rivaux. Hein. Bon. Mais on se centre sur Daesh, parce que, évidemment, toute l'actualité s'est centrée là-dessus, et puis il y a eu une montée en puissance absolument énorme de Daesh. Alors, Daesh, c'est d'abord un acronyme. C'est un acronyme arabe. Alors, je vous passe la traduction en arabe. D'ailleurs, je serais complètement... Enfin, l'expression en arabe, j'en serais totalement incapable. Mais ça veut dire « État islamique en Irak et au Levant ». Bon, en Irak, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais le Levant, alors le Levant... Eh bien, le Levant, c'est une appellation, une vieille appellation qui correspond à peu près au territoire syrien, mais un peu plus. Un peu plus. Comme Daesh ne reconnaît évidemment absolument pas les frontières établies, on en reparlera tout à l'heure, par les Occidentaux, notamment les frontières entre la Syrie et l'Irak, évidemment, il se donne une appellation qui transcende ces frontières. Donc, on va répondre à quelques-unes de ces questions qui se trouvent devant vous, là. Hein. Qu'est-ce que Daesh et par qui est-il dirigé? Donc, on va commencer par ça. Alors, c'est parti. Vous avez là quatre personnages que vous avez peut-être vus ici et là. Alors, le premier en haut à gauche s'appelle Zarqawi. Il est considéré comme, je dirais, l'acteur fondateur du mouvement Daesh. Hein. Et Zarqawi, qui est apparemment décédé, a donc fait justement ce travail de contestation de la stratégie d'Al-Qaïda. Il est accompagné d'un autre personnage qui n'est pas en photo, mais vous allez le voir tout à l'heure, qui s'appelle Al-Souri, et qui est un petit peu, je dirais, le théoricien de Daesh. Hein, celui qui a justifié, je dirais, la stratégie de Daesh. Les deux personnages qui sont en bas de la diapo, Abu Ali An-Rabi et Abu Muslim Al-Turkami, non, ce n'est pas Georges Clooney, c'est bien un ancien responsable des services secrets de Saddam Hussein. Abu Ali Al-Anrabi est un ancien officier supérieur de l'armée de Saddam Hussein. Daesh, c'est une organisation attrape-tout, y compris. Ceux qui, sous la période de Saddam Hussein en Irak, ont eu des responsabilités importantes et qui sont animés, évidemment, par un esprit de vengeance à l'égard de l'humiliation liée à l'attaque américaine, notamment la Deuxième Guerre du Golfe, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Le dernier, ben, il n'y a pas de nom, tout simplement parce que faut que vous fassiez... travailler un petit peu les neurones, mais peut-être que vous avez une réponse. Ce dernier visage, en haut à droite. Non ? C'est important de le savoir. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien, je dirais, un visage à donner à l'ennemi, puisque nous sommes en guerre, nous serions en guerre, c'est ce visage-là. Parce que ce visage, c'est Al-Baghdadi. C'est le calife. Vous savez peut-être qu'en 2014, Daesh s'est érigé en califat, dénomination religieuse. D'accord ? Eh bien, le calife, c'est lui. Beaucoup, beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il est mort ? Où est-ce qu'il se balade ? Puisque vous savez que Mossoul est tombé, que Raqqa est... quasiment tombé à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire les deux grandes villes principales de l'ex-État islamique, parce que je pense qu'on peut parler en ces termes-là. Donc on ne sait plus du tout où il est. Bon. Non, il n'en demeure pas moins que c'est ce personnage qui incarne, je dirais, le visage de Daesh. Okay. Daesh était une organisation. Vous retrouvez la tête de tout à l'heure, et puis vous avez des gouverneurs qui sont affectés de façon territoriale, mais aussi ce qu'on a appelé des conseils. Et chaque petite icône, vous voyez, chaque petite icône, donc, c'est assez bien fait, représente les compétences spécifiques pour l'organisation de Daesh. Donc, vous avez l'ordinateur, évidemment, pour inonder le monde occidental et de certaines informations sur des réseaux sociaux qui vont faire l'apologie de l'action de Daesh. Vous avez aussi des écoles, vous avez aussi, évidemment, toute la partie militaire de Daesh, etc. Les finances aussi. Et à la tête de chacune de ces grandes fonctions, vous avez des conseillers qui font tourner la boutique, si je puis dire. Quel territoire et quels sont les buts? Alors, le territoire, il s'est réduit comme peau de chagrin. Là, vous avez une représentation de l'AFP relativement récente, puisque la carte numéro 2 est d'août 2017. Donc, vous voyez, évidemment... que ça barde, ça va mal pour Daesh, en tout cas d'un point de vue de la maîtrise territoriale. Puisque, je vous parlais tout à l'heure de Raqqa, qui est tombée, Palmyre, après avoir été conquis, puis perdu, est de nouveau tombé. Évidemment, Mossoul, on en a beaucoup parlé. Donc, finalement, ce territoire, contrôlé par le Hi, est devenu une espèce de peau de léopard, avec quelques petites poches, ici et là, qui se réduit comme peau de chagrin, je dirais, c'est plus même plus, je dirais, de l'ordre de l'année, mais mois par mois. Sauf que les parties résiduelles de Daesh, maintenant, se concentrent non plus sur des villes, mais sur des territoires désertiques, sur lesquels on peut évidemment facilement se disperser, comme dans le Nord Mali, par exemple, et du coup, repérer, je dirais... Les derniers des résistants de Daesh dans ces contrées, c'est évidemment assez compliqué. Surtout, cette carte, je vous la montre pour vous convaincre du fait que Daesh ne s'est pas étendu n'importe où. On aurait pu le voir apparaître ailleurs, et je pense qu'on va le voir réapparaître ailleurs. Peut-être en Libye. Peut-être en Libye. Il y a pas mal de raisons de penser que ce sera le cas. Mais regardez cette carte. D'abord, ce qui frappe, c'est la concentration des gisements pétroliers. Il suffit de regarder les petites tourelles, là, hein, voir toute une bande qui va de la mer Caspienne jusqu'à Oman. Hein, eh bien, le territoire, l'ex-territoire de Daesh, était positionné... bel et bien à ce niveau-là. Et puis vous avez l'intensité des conflits avec les petites étoiles. En Iran, en Irak, guerre du Golfe au Koweït, et puis, évidemment, cette abcès de fixation qui dure depuis des décennies, sans doute le conflit larvé ou ouvert le plus long de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire Israël versus les territoires palestiniens. Si j'avais eu, je dirais, la possibilité de vous donner plus de diapos, je vous aurais montré une monnaie, parce que Daesh s'est mise à frapper monnaie. Très symboliquement, hein, ce n'est pas de la monnaie qui circule. Vous en aurez un exemple tout à l'heure. Il y a une monnaie, notamment, qui représente la mosquée de Jérusalem. Hein ? Regardez l'une des faces de la monnaie, vous voyez, apparaît la mosquée de Jérusalem. L'objectif est très clair. L'objectif, c'est la reprise de Jérusalem. Et nous sommes à deux pas, quand vous regardez le territoire de Daesh, à deux pas de Jérusalem. Okay, donc, évidemment, une tentative dont on peut dire qu'elle a failli réussir, hein, de prendre main sur un territoire qui n'est pas du tout au hasard. Et puis, évidemment, on se dit, maintenant que Daesh est en perte de vitesse, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les territoires syriens et irakiens, on en aura terminé. Alors là, le problème, c'est que cette diapo a le grand mérite de vous montrer que c'est probablement pas terminé. Ici, en fait, la carte situe les principaux pourvoyeurs de forces militaires, d'hommes, un peu partout dans le monde. Alors évidemment, la France, c'est pas rien, hein, 1200, mais le Maroc, c'est beaucoup plus, 1500. La Tunisie, c'est impressionnant, ce serait entre 1500 et 3000. La Turquie, à peu près 600. Vous en avez également qui viennent de Libye, d'Égypte, et, aux surprises, de Russie. Et, aux surprises, de Bosnie. N'oublions pas que la Bosnie, qui est en plein territoire des Balkans, hein, qui est pas très loin d'ici, est un pays qui a été très concerné par l'islam, et il y a eu, effectivement, à l'issue de la guerre qui a concerné cette partie de l'Europe, il y a eu une espèce de savoir-faire hein, militaire et quelques jusqu'aux boutistes qui se sont mis au service de Daesh. Mais ces points qui sont autant, je dirais, de pourvoyeurs de Daesh peuvent très bien revenir dans leur contrée d'origine. D'accord ? D'ailleurs, c'est l'une des préoccupations de l'actuel gouvernement et de l'actuel ministre de la Défense, qui, d'ailleurs, déclare, et François Hollande l'avait fait auparavant, très clairement, que l'une des parties de la mission des combattants à Raqqa, par voie indirecte, évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas de soldats français sur le sol, en tout cas pas officiellement, mais c'est de liquider des combattants de Daesh, des nationalités françaises, qui sont listés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reviennent pas. Ce qui pose évidemment un problème de droit, quand même. On est censé être un état de droit. Bon, voilà. Quelle différence avec Al-Qaïda ? Ben voilà, on y revient. Le personnage qui nous manquait tout à l'heure, Al-Souri, c'est lui. Intellectuel, de haut niveau, hein, de haut niveau. Donc lui, il construit véritablement et il justifie la stratégie de Daesh. Alors comment il fait ? Il dit, en fait, il y a eu trois étapes dans, je dirais, le djihad. La première étape, c'est l'étape du djihad afghan, c'est-à-dire des djihadistes se revendiquant d'ailleurs de sensibilités diverses et variées qui luttent contre l'occupant russe. Djihadistes afghans, d'ailleurs, équipés, il y a plein d'effets boomerang intéressants dans l'histoire, par des moyens américains. Et l'objectif a été atteint, c'est-à-dire que les troupes soviétiques ont été désinguées et éliminées de l'Afghanistan. Ça, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape, alors il l'appelle l'étape de l'affirmation, cette première étape. La deuxième étape, c'est celle d'Al-Qaïda. Donc, opération ciblée, spectaculaire, organisation pyramidale. Al-Qaïda, ça veut dire la pyramide. Au sommet, un chef, Ben Laden. Et puis des actions que l'on mène un petit peu partout de déstabilisation, des actions que l'on mène un peu partout dans le monde, et avec une certaine obsession, une certaine priorité, les États-Unis. Bon. Al-Souri dit, c'est du grand n'importe quoi. Ce qu'il faut, ce n'est pas du tout une organisation verticale, c'est une organisation horizontale. Alors, il appelle ça, ou plutôt c'est Gilles Kepel qui parle d'un système réticulaire horizontal. On peut parler donc de rhizome. Vous savez, le rhizome, c'est les racines qui se baladent sous, pas très loin de la surface, hein, de la Terre, qui se baladent comme ça de façon souterraine. On voit rien, hein, mais ça se développe de tous les côtés. Bon. Al-Souri, il dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc, la vraie différence entre Al-Qaïda et Daesh, c'est ça. Partout où c'est possible, il faut la présence de djihadistes qui sont encouragés à mener des actions, y compris en toute autonomie, s'ils le souhaitent, et des actions qui seront d'ailleurs reprises, revendiquées, après coup. Dès que l'action est considérée comme convergente avec les objectifs de Daesh, eh bien on les revendique après coup. Ce qui veut dire que le djihadiste potentiel, il est amené par ses propres moyens, parfois très rudimentaires, parfois ça relève du bricolage lamentable, à faire une action dans l'espoir, de toute façon, dans son fantasme, d'être reconnu par toute une communauté réunie autour de Daesh et finalement d'être érigé en une espèce de héros. À partir de là, tout est possible. Et comment voulez-vous contrôler ? C'est-à-dire que le fait d'avoir neutralisé la tête ne veut pas dire grand-chose. Et le potentiel, je dirais, d'attentat n'est pas pour autant neutralisé. Donc à chaque fois qu'il y a un attentat qui se passe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit aujourd'hui en Somalie ou ailleurs, évidemment, la logique occidentale, c'est de chercher le responsable, sauf que le responsable, il se déclare responsable a posteriori, une fois que les choses ont été faites. Difficile de justifier vraiment le terme de guerre dans son sens premier avec une telle configuration radicalement nouvelle.